Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
C'est bon.
On mange tout dans la banane. Hein. Quand on a la banane mûre, l'intérieur de la peau de banane, c'est anti-moustique. En fait, vraiment, on peut tout utiliser dans la banane. C'est vraiment un cadeau du ciel.
Manger la banane par les deux bouts?
La banane, c'est un fruit qui est très discret en parfum. Mais quand vous avez des bananes quand même qui sont à maturité dans la cuisine fermée, vous sentez le parfum de la banane mûre. Ça vous donne envie de déguster une banane. Le matin à jeun, c'est très bon.
Banane de Guadeloupe et Martinique, c'est pour ça qu'on l'aime.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Aujourd'hui, on se met au régime, oui, au régime de banane, de la Cavendish, de la Plantain, de la Fraissinette, de la Dure, de la Toute Molle. Vous saurez tout sur la banane. On va vous proposer un voyage tropical au contact de la banane des Antilles françaises. Une banane qui se revendique aujourd'hui durable. Notre reporter Stéphane Combe est allé tâter le pouls de ce fruit, plus respectueux des hommes et de l'environnement, en Guadeloupe. Et il est même allé à la rencontre du premier producteur de bananes biologiques en Martinique. Pour en savoir plus sur ce fruit passionnant, sur ses provenances, ses variétés, ses labels, ses recettes, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un artisan primeur, meilleur ouvrier de France. C'est Frédéric Jauneau, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour François Régis.
Vous allez bien Frédéric?
Ça va très bien.
Merci d'être avec nous en direct dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Vous avez fondé l'école et l'académie du fruit et du légume. Et la banane, vous la connaissez bien, au point de lui consacrer, on va le voir, des recettes assez surprenantes qui flirtent même avec le registre salé.
Exactement, mais on va déguster.
On va déguster, ouais. Dans un sens plus que dans l'autre, j'espère.
Ah bah tout à fait.
On va déguster positivement, absolument. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre inimitable chroniqueur vin Dominique Hutin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous allez
bonjour.
Bien?
Bien, bien, très bien.
Débo.
Ben moi, on va voir si la banane est réellement l'ami du sportif.
Ah, des recettes sportives, mais faciles quand même. On va
énergétique
voir ça.
Surtout.
Énergétique, ouais. Dominique.
Bonjour. Oui, alors, vous attendiez que je vous dise quelque chose, peut-être.
C'est vraiment quand vous voulez. Il a perdu ses réflexes, Dominique.
Non, je me disais que puisque toutes les routes mènent au Rhum, on pourrait peut-être mettre les voiles vers les Antilles, par exemple.
Ah, voilà, ça valait le coup, il fallait pas la louper. Toutes les routes mènent au Rhum, évidemment. Interagissez en direct dans cette émission via l'appli de France Inter, sur Twitter avec le hashtag On va déguster ou nous envoyant un mail On va déguster à radiofrance.com. Nos recettes, nos reportages, nos infos pratiques ainsi que le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se mettre à la banane, Frédéric Jauneau, j'ai une petite surprise. Une autre surprise fruitée à vous faire goûter. C'est une surprise en pot.
Allez,
est-ce que vous pouvez y aller?
On y va, on y va.
Vous ne regardez pas trop l'étiquette, s'il vous plaît.
Mmh. Ah ça c'est... Ah ouais, le matin comme ça?
Bon, vous avez identifié le fruit?
Ah oui, quand même, une jolie fraise.
Ah quand même, bon, vous n'êtes pas humilié. Ah ouais.
Non, non, on est bien, j'en prends une deuxième. Hein.
Et alors, Déborah, vous avez aussi trempé votre cuillère?
C'est effectivement une très bonne confiture très bon. De fraises.
Oui.
Avec des fruits, on sent les morceaux.
Oui.
Elle n'est pas très sucrée.
Non, elle n'est pas sucrée
une
du
confiture,
tout.
Ouais. C'est intéressant.
Absolument.
Et on sent même la couleur, voilà. La couleur est étonnante, elle est assez foncée. On oui. Retrouve presque une confiture maison.
Elle a une bonne texture. Eh bien, vous avez presque tout dit, elle est assez explosive, très aromatique. C'est une confiture de fraises qui nous vient, figurez-vous, des monts du Lyonnais, à l'ouest de Lyon, un terroir de moyenne altitude, particulièrement adapté à la culture des petits fruits rouges. Et c'est dans cette micro-région que se sont installés les producteurs de Terre Éthique. Marc, Cyril, Dominique, ils cultivent de plein champ des fraises de saison en agriculture paysanne et biologique. Ils les récoltent à la main, ils les transforment en confiture avec un sucre qui assombrit peut-être un petit peu cette confiture. Déborah, justement, c'est du sucre de canne non raffiné et équitable, originaire du Paraguay. Il y a aussi du coulis de fruits rouges qui vient de ces mêmes producteurs Terre Éthique. Et cette confiture, vous la trouvez dans le commerce et notamment en grande distribution sous l'étiquette Paysan d'ici, une gamme de la marque Éthicable. Éthicable, c'est une SCOP, une société coopérative et participative qui s'engage auprès de paysans à travers une charte éthique très scrupuleuse et qui assure notamment à ses paysans, à ses producteurs, une juste rémunération. Ce pot de confiture, par exemple, de 320 grammes, il coûte globalement en moyenne dans le commerce 4,50 € et 49% de ce prix revient au producteur. C'est ce à quoi s'engage justement la marque Éthicable. Paysans d'ici, ce sont une trentaine de références de produits en France. Preuve d'ailleurs que le commerce équitable, ça se passe certes au bout du monde avec le cacao, avec le chocolat, d'autres produits agricoles, mais ça doit commencer au bout du chemin, dans les monts du Lyonnais, en Bretagne, dans le Gers, partout en France. Je vous ai également rapporté dans la gamme paysan d'ici de délicieux biscuits bio, ça c'est un petit cadeau pour Dominique, pour vos enfants Dominique.
Ah, merci.
De délicieux biscuits bio fabriqués dans Gourmande et compagnie, une biscuiterie artisanale, c'est une très belle histoire, une biscuiterie artisanale de la région toulousaine qui a été rachetée par ses employés. Etikab les a accompagnés et les a aidés. Également une crème bio de châtaigne fabriquée par la SICA Viva Plante. Ce sont des pionniers de la bio en Ardèche depuis 1986, mais également de la farine de sarrasin, des grenets bio d'Armorique. Voilà, une farine de sarrasin bio, paysanne, française, ça fait du bien quand même, quand on sait que 85% du sarrasin que l'on consomme aujourd'hui en France est importé. Paysan d'ici, la gamme de produits français de la marque Etikab. Toutes les infos sur franceinter.fr à la page on va déguster. Aujourd'hui, pour réaliser cette émission consacrée à la banane, derrière la console, Laurent Thomas, Fabrice Desmaz, Nadia Chougui. En juillet 1936, à l'époque où la banane des Antilles et des Amériques devenait un fruit familier des consommateurs de la métropole, Ray Ventura chantait « Vive les bananes !» Un clin d'œil vintage à notre menu du jour, choisi par notre programmateur Djoubaka. La banane fait son striptease sur France Inter.
Noisette, bonbon acidulé, cacahuète, caramel.
Hé, garçon.
Monsieur.
Vous n'avez pas de banane.
Non, monsieur, nous n'avons pas de banane.
Bah, qu'est-ce que vous avez alors?
Pistache salée, amande, noisette, bonbon acidulé, cacahuète, caramel.
Oh, j'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Les dieux de l'ancien temps aimant la fantaisie à tout autre aliment préférer l'ambroisie.
Ah ben moi je veux bien vous croire, mais en attendant, vive les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Les plus grands poètes, même les décadents, aiment les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Tous les hommes de science, même les plus pédants, aiment les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Même les plus inconnus, parmi les hommes célèbres, apprécient les vertus de ce fruit sans vertèbres. Les plus grands ministres, même les présidents, aiment les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Je n'aime pas les asperges, c'est intimidant, vous ne trouvez pas?
Oh que si, et on ne sait jamais par quel bout les prendre.
J'aime les bananes parce qu'elles n'ont pas le goût de la cannelle, et je déteste la cannelle.
Et toi Jean-Pierre, aimes-tu les bananes?
Non.
Et pourquoi donc?
Eh dame, parce que le goût ne m'en plaît point.
Oh, et puis comme couleur, les épinards sont tellement plus ravissants.
Et toi Dudule, tu les aimes les bananes?
Oh oui.
Et pourquoi donc?
Ah ben, ah ben, ah ben, ah ben, parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Miam, 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 miam. Qui aime les bananes sur le plateau dont on va déguster?
Ah bah tout le monde j'espère.
J'aimerais bien qu'on me réponde non, j'aime pas trop, etc.
Ah, moi je suis pas entièrement acquis à la banane, je dois le dire.
Jérôme Gagnès m'a avoué qu'il déteste ça encore plus que la coriandre.
Un de nos chroniqueurs, vin. Oui, c'est ça, oui.
Encore plus que la coriandre.
On peut changer de statut de bananophobe à bananophile assez rapidement, donc voilà, on va se laisser faire.
À l'heure du brunch, on va réconcilier tout le monde autour d'une recette emblématique de notre répertoire, mais une recette culte qu'il n'est pas toujours facile de réussir. C'est l'heure du brunch, on va y aller avec Déborah Dupont. On croule sous les demandes d'auditeurs qui nous demandent une recette infaillible de cake à la banane. Une recette assez pratique d'ailleurs pour recycler les bananes très mûres, un peu trop mûres, qui font un peu la tronche dans la corbeille de fruits.
Alors je suis allée piocher ça du côté des anglo-saxons et de Jamie Oliver en fait, dans son livre So British, plus de 130 recettes qui vous feront aimer la cuisine anglaise, aux éditions Hachette Cuisine. Effectivement, il appelle ça d'ailleurs le gâteau aux noix et à la banane. Et c'est assez simple, il faut des bananes très mûres, pour 500 grammes à peu près, donc 500 grammes c'est 5 ou 6 bananes, ça dépend de la taille exactement du gabarit. Des noix décortiquées que vous aurez fait un peu torréfier au four. Du beurre doux, de la cassonade, des œufs de poule, 200 grammes de farine, de la levure du bicarbonate de soude, un petit peu de cannelle pour aromatiser.
Ah oui, on la sent un peu légèrement, mais pas trop.
Pas trop, et en fait vous mélangez tout.
Les noix,
Voilà, les noix torréfiées, la banane bien écrasée, vu qu'elle était très très mûre. J'avais des bananes qui étaient quasiment noires, en fait, qui étaient restées pendant mes quelques jours de vacances.
Elle est super, cette recette.
Elle est super parce que c'est surtout, il faut aimer les cakes à texture assez humide, en fait,
oui,
assez moelleuse.
Mais moelleuse, mais pas trop humide non plus.
Et si on regarde bien,
on sent que ça a bien levé.
On a le détail, en fait, de la recette et des proportions sur le site France Inter, à la page On va déguster. Il n'y a que 125 grammes de cassonade, en fait. C'est très très peu sucré, puisque la banane apporte le sucre. Donc c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est un gâteau qui se garde, c'est un gâteau qu'on peut effectivement manger au brunch, mais qui est aussi parfait à tout moment de la journée.
Merci.
Sans
voilà
que le goût de la banane ne soit envahissant au final.
Ça passe ou pas, Dominique ?
Oui, ça passe, mais comme j'avais la bouche pleine, je ne voulais pas le dire avant.
Frédéric Jouneau, qu'est-ce que vous pensez de ce banana bread signé de la star anglaise Jamie Oliver ?
Ben, j'ai aussi la bouche pleine.
C'est bon signe.
Mais ouais, c'est bon signe. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés, il y a beaucoup de façons de faire la recette du pain banane ou cake banane, etc. Celle-ci est très originale, et en plus, si on rajoute des petites noix de Grenoble, moi je suis pour. Voilà.
Votons noix de Grenoble, on est bien d'accord, une très belle noix du côté de l'Isère. Vous allez me répondre évidemment que pour un cake à la banane, on utilise forcément de la banane made in France.
Exactement, de la banane française,
oui.
De Martinique et de Guadeloupe. Mmh. Alors dans un sens ou dans un autre, parce que nous on aime les Antilles et on aime cette banane. Elle est durable. Durable, on a mis ce mot parce qu'elle est équitable, elle fait travailler. Il y a plein d'échelles aujourd'hui dans cette banane française, banane durable. Mmh. On va parler des travailleurs, hein. Il y a le côté social, il y a le côté environnemental qui est important, il y a énormément de biodiversité qui est revenue grâce à ça. Donc c'est fait sur plusieurs étapes, hein. Ça c'est pas fait.
Absolument, on va en parler d'ailleurs de la durabilité, de la nouvelle durabilité de cette banane française.
Et tous les dérivés, comme là, un petit clin d'œil pour Didier là.
Pour
Dominique.
Mais pardon, ça y est, alors. Pourquoi Didier, à chaque fois, je l'appelle Didier.
Grande capacité d'adaptation.
On a un nouveau chroniqueur dans
l'équipe. Bah oui, je m'a troublé ce matin Didier. En arrivant, c'est pour ça.
Didier Hutin, ça te va, c'est bien. Bon, il faut dire que la banane déploie des efforts diplomatiques pour faire apprécier son fruit, parce que l'enjeu est de taille. La banane des Antilles françaises, c'est quand même 600 producteurs, 200 000 tonnes de bananes commercialisées en France, et c'est aussi, chaque année, hein, et c'est aussi un changement de cap agricole, comme vous l'évoquiez, Frédéric Jouneau. La filière banane française veut faire oublier notamment la monoculture intensive, l'ère du phytosanitaire, le scandale du chlordécone, ce puissant, qui porte bien son nom d'ailleurs, hein, ce puissant insecticide désormais interdit dans le monde, qui fut utilisé contre le charançon du bananier de 1972 à 1993, qui a durablement, on le sait, contaminé les sols. Il y a des études qui montrent qu'il faudra plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, pour épurer certains sols antillais qui ont été très touchés par cet insecticide extrêmement toxique. La banane française a décidé de changer de peau, de se faire beaucoup plus respectueuse de l'environnement et de la santé humaine, à travers le plan Banane Durable. Notre reporter Stéphane Combe est parti à la rencontre de David Mir. Il est producteur de bananes à Bouillante, à l'ouest de Basse-Terre, en Guadeloupe. Il produit 450 tonnes de bananes par an sur une exploitation de 12 hectares. Un terroir idéal pour la culture bananière.
Alors c'est vrai que chez moi, sur Bouillante, il fait chaud et humide, qui sont des conditions optimales de croissance, parce que vous avez l'ensoleillement qui est maximal. Quand vous regardez un bananier, les feuilles sont extrêmement larges.
Elles font à peu près quelle taille ?
On a des feuilles qui font entre 60 et 70 cm de largeur, et avec une superficie qui peut aller jusqu'à 1 mètre carré. C'est une plante géante, ça n'est pas un arbre.
Là, on en a un en face
c'est
de nous.
C'est assez costaud, c'est une grande plante dont le pseudotron peut faire jusqu'à 90, 1 mètre de circonférence et une hauteur de 3-4 mètres 50. Ce sont des feuilles qui sont parties du bulbe et qui sont arrivées jusqu'en haut. Donc vous voyez, on pourrait enlever les feuilles les unes après les autres et arriver juste au cœur. Ce sont des ensevêtrements de feuilles de banane qui font c'est pour ça que ça s'appelle un pseudotron. À la sortie de toutes les feuilles va apparaître le régime. Donc le régime de banane, qui est la tige centrale, la nervio centrale sous laquelle sont fixées les mêmes bananes.
Alors ce bananier là, il a un régime de bananes avec 200, 300 bananes, voilà. Hein, qui sont accrochées. Il ne fait qu'un seul régime de bananes.
Absolument. Après c'est fini.
Après qu'est-ce qui devient le bananier? Alors, l'année prochaine il reproduira des bananes ou...
Ah non, pas l'année prochaine. Donc vous allez voir, le bananier, vous avez ce qu'on appelle le pied-mère avec le régime porteur. Et à côté, vous avez déjà le rejet fils, c'est-à-dire celui qui va le remplacer.
Ah, celui qui est à côté.
C'est
là.
Celui qui est à côté.
Du reste, il a la meilleure mine. Hein.
Une fois qu'il a produit, j'ai envie de dire, ce pour quoi on l'a mis là, le régime, c'est bon, il peut mourir. Donc bien mener, une bananeraie produit tout au long de l'année. Bon, pas d'herbicide qui est passé. Et vous allez voir ici, c'est un petit piège, ça s'appelle un piège à charançon. On va le découvrir.
Alors c'est une espèce de boîte jaune qui est
voilà,
dans le sol.
C'est un piège. Et dans la boîte, on a mis un fond avec de l'eau et une phéromone. c'est le nuisible du bananier, plutôt que d'attaquer le bananier, s'oriente vers le piège, tombe et se noie. Je vais vous montrer comment je vais vider un peu l'eau et vous allez voir au fond, voilà, c'est tous ces petits insectes.
Oui. Il y en a plein
et qui attaquent le bulbe du bananier. Quand vous regardez mon exploitation maintenant, vous n'avez pas de bananier qui sont tombés. Hein.
David Mir, producteur de bananes en Guadeloupe, bananes durables, il faut le préciser, c'est vrai qu'au cœur de ce nouveau projet agricole, il y a la réduction des pesticides et la lutte biologique. On sait que l'ennemi de la banane, c'est vraiment le charançon, hein. Alors, ce gros ver.
Il y en a plusieurs des ennemis, hein. La production, moi je dirais, je vais parler d'une production responsable. Responsable en tant que de la planète, mais responsable aussi humain. Un respect de l'environnement. C'est en ça que la banane française a quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça qu'elle est unique au monde. J'ose pas dire meilleure, cocorico, mais elle est unique au monde.
Est-ce que c'est du chauvinisme que vous nous faites là? Vous voulez parler de par rapport à ces rivales américaines notamment?
Exactement. Alors l'objectif de cette banane responsable, c'est de réaliser une transition agroécologique de la filière en modifiant profondément les pratiques culturales. Donc ça, c'est important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler sur la jachère.
Oui.
Donc on va laisser les terres pendant 2 ou 3 ans comme ça. On va replanter autre chose, de la canne à sucre, de l'ananas.
Rotation des cultures.
Donc ça, c'est un premier. Après, on va travailler sur des vitroplans en amont.
Mm-hmm.
Donc avoir des plans plus sains. Donc on va gagner sur le temps, on va gagner sur la fiabilité.
Mm-hmm.
On va travailler sur effectivement des pièges à phéromones, les pièges à charançon qui sont vraiment ravageurs. On en a aussi chez les pommiers. Hein. Mm-hmm. Donc il y a vraiment une avancée là-dessus aussi.
Ce qu'on appelle la lutte biologique.
La lutte biologique, effectivement. On va travailler sur, vous savez, on va remettre de l'herbe entre les rangées.
Les couverts.
On va les couvrir, les fameux couverts. Et ça, déjà, alors c'est beau parce que quand vous arrivez dans les bananeraies, vous avez l'impression de voyager au-delà.
Mm-hmm.
Et ça va protéger les plantations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on va envelopper les bananes d'un sac. Alors pour l'instant, il n'est pas encore biodégradable, mais on y travaille, ça va arriver bientôt.
Parce que pour l'instant, c'est du plastique bleu qui n'est pas franchement très joli dans les paysages entiers.
Ouais, mais ça permet de le distinguer.
Oui.
Le bleu n'est pas par hasard non plus. On voit tout de suite la plantation.
Expliquez-nous la fonction de ce sac plastique.
Alors, ça protège des insectes, bien sûr. Ça permet de l'humidité, de garder une certaine humidité.
Absolument.
Et c'est un intérêt écologique, comme le reste.
Oui.
Ça vient petit à petit, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça.
Et des sacs bientôt biodégradables.
Biodégradables, tout à fait. On y travaille. Hein. Faut pas que les auditeurs ils disent oui, mais non, ça va sortir là.
Le plan banane durable a été initié en concertation avec le ministère de l'Agriculture en 2008. Le recours aux produits sanitaires depuis cette date a diminué de 60%. Et l'objectif de ce plan banane durable, c'est de produire à terme, d'ici 2020, un fruit exempt, propre, sans traitement, exempt de traitement phytosanitaire.
Exactement. Et il faut dire que...
Ce qui est un sacré pari par climat tropical dont on sait qu'il favorise beaucoup les maladies.
Et on est en avance. On est en avance. Les Antilles sont en avance par rapport au programme qui s'était fixé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'avance.
C'est une bonne nouvelle. Frédéric Jonot, petit point botanique. On entendait notre producteur dire que le bananier n'était pas un arbre. Précision.
Alors non, le bananier n'est pas un arbre. Le bananier, c'est une herbe géante. D'ailleurs, c'est la plus grande herbe géante du monde.
Ah bon ?
Appelée jusqu'à 16 mètres de haut. Et alors, bien sûr, aux Antilles, ça varie entre 3 et 5 mètres.
Mm-hmm.
Mais c'est une herbe. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas de bois. À l'intérieur, c'est creux.
Mmh.
Voilà.
Et si on parle latin, ça donne quoi
Oh là 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 là,
Musa musacé.
Musa musacé.
Il y a tellement plaisir à François Régis.
D'où viennent les végétaux qu'on consomme?
Visiblement,
il paraît qu'on trouve encore des formes sauvages du bananier dans une grande partie du sud-est asiatique, de l'Inde à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis ensuite, elle a été domestiquée il y a à peu près 10 000 ans. Le bananier a été introduit en Afrique de l'Est, en Chine, dans le Pacifique Sud, etc. Et même par les Portugais début 16e aux Canaries.
Exactement. Alors, Musa acuminata.
Oui.
Ça, c'est le nom de la Cavendish, hein, d'accord? Et ne pas confondre avec celle qu'on voit tout le temps, la banane plantain, qui n'est pas la même famille, hein, Parasiadia.
Oui.
Alors, c'est un peu difficile à prononcer, donc on dit banane plantain. Mais il y a plein d'autres bananes, hein, que la Cavendish. Hein. Il y a l'artichaut, il y a la Musa, il y a la plantain, il y a la Benedetta.
Absolument.
Il y a la rouge. Il y a 1500 variétés de bananes. Vous en avez qui sont rondes, carrées, avec des gros noyaux à l'intérieur. Mmh. Mais par contre, il y en a à peu près entre 100 et 200 de comestible, enfin si on répertorie un peu.
Et nous, la banane dessert qu'on trouve sur la plupart de nos étals, c'est essentiellement la Cavendish, c'est à peu près 80-85% des bananes que l'on consomme. Exactement. Dans le monde. Je vous propose, Frédéric Jauneau, à présent une promenade dans la maison de la banane.
Nancy, au musée de la Martinique, elle vous accueille les bras ouverts.
C'est ça, et ben ça se passe, on y va justement, ça se passe à Trois-Rivières, sur Basse-Terre, en Guadeloupe. Il paraît même qu'il y a une très très belle vue sur l'archipel des Saintes. Nancy Bureau, directrice de la maison de la banane, accueille notre reporter Stéphane Combe dans une ancienne maison de planteurs, entourée d'une bananeraie de 15 hectares, où s'épanouit une centaine de variétés de bananiers.
Ça, c'est les héliconias oiseaux des îles, vous voyez. Ça, c'est la famille Musa. C'est déjà les bananes, dans les bananes ornementales. Dans les 1500 variétés de bananes qui existent, on n'en mange qu'une centaine. Pour savoir si une banane est comestible, on est dans un champ, on est perdu, on ne sait pas si on doit la manger. Eh bien, comme la banane, c'est une plante hermaphrodite, en fait, ce sont les bananes femelles qu'on mange. On ne mange que lorsque la fleur est vers le bas. Alors, toutes les grosses bananes sont des bananes légumes. La plantain, la poteau, la benedetta qu'on va voir. Et toutes les petites bananes sont des bananes dessert. Voilà, tout simplement. Donc, on arrive déjà devant une première, là. Elle est double. C'est deux mains collées.
Ah oui, en fait, on dirait, oui, en effet, des mains collées.
Deux mains collées. Alors, c'est son nom, on l'appelle la main de Dieu. On l'utilise aussi en banane légumes.
Là, on est en train de se promener, Nancy, dans cette petite bananeraie qui voilà, se trouve juste derrière le musée de la banane.
Musée, voilà.
Vous avez combien de bananiers?
Alors, pour la collection, nous avons une centaine de bananiers. Ça, c'est la banane pomme. Lorsqu'on la déguste, oh, en fin de bouche, il y a une petite acidité qui rappelle la golden.
Elle est toute petite.
Elle est toute petite, voilà. Au départ, les rares bananiers qui existaient servaient d'ombrières aux caféiers. Et à partir de 1928, il y a eu un cyclone qui a tout ravagé. On s'est rendu compte à ce moment-là que pour qu'un caféier reporte, il faut attendre 6 ans. La seule production qui est capable de se développer en l'espace d'un an, c'est la banane. Parce que la durée de vie du bananier, de la plantation jusqu'à l'obtention du fruit au régime, c'est 1 an. Voilà la fameuse banane rouge. Son tronc est tout rouge.
Il est rouge, voilà, rouge-violet.
Rouge-violet, exactement. Et voilà une fleur qui commence. Ce qui est intéressant, bon, la Cavendish que nous connaissons traditionnellement, elle est verte. Quand elle mûrit, elle devient jaune. Celle-là, elle est violacée. Et lorsqu'elle va mûrir, elle deviendra toute rose. Nous avons aussi une banane dont on ne mange que la fleur. Moi, je l'appelle la banane artichaut.
Ah bah oui, ça fait penser à un artichaut. Et c'est une banane?
C'est une banane, c'est, regardez, des petites bananes, hein, mais qu'on ne mange pas. On ne mange que la fleur. On va aller voir, on va descendre un peu en plantation. Venez avec nous. Celui-là va saigner. C'est la Musa sanguinea.
Vous êtes en train d'arracher de l'écorce du tronc du bananier. Voilà. C'est un petit bananier au demeurant.
Voilà, regardez, voilà, ah ça, oui, saigne. Le latex, la banane, elle saigne. Ça fait des petites bananes dans les variétés, des petites sucrées quand même. Hein. Je prends un petit peu de persil pour faire la salade de banane. Comme ça, elle sera fraîche. Moi, j'aime bien la faire avec tous mes ingrédients, tout frais, cueillis du jardin, le piment. On va faire une belle botte, voilà, pour faire la cuisine tout à l'heure.
Nancy Bureau.
Elle est extraordinaire. C'est un puits de science et de gentillesse.
Ouais.
Voilà.
Et elle nous propose tout à l'heure, vous allez voir, une petite surprise, une recette traditionnelle de Guadeloupe. Pollo et morue. Pollo et morue. J'arrête de moquer des accents.
Attention.
Tant que je m'en moque pas, j'adore l'accent entier.
Pollo, c'est en Guadeloupe. Tinin, c'est en Martinique.
Alors attendez, pollo, tinin.
Ah, c'est la banane verte.
Oui, voilà, la banane verte.
C'est la banane légume.
Eh ben, nous y sommes, justement, la banane verte. Alors, c'est ambigu quand vous dites banane légume, Frédéric Jauneau, parce qu'on peut penser que la banane légume, c'est la plantain, qui est beaucoup plus volumineuse, qui est un vrai féculent, et qui se mange comme un légume. La banane plantain, en un mot, on la trouve de plus en plus sur les étals de nos supermarchés.
Exactement.
Et chez nos primeurs. Comment on la cuisine?
Alors, la banane plantain, il faut la manger quand elle est noire, noire, noire.
C'est vrai.
Une peau très noire. Voilà, ça c'est important. Après, on peut la cuire.
Quand on la voit, on peut penser qu'elle est pourrie. Alors qu'en fait, il faut vraiment que la peau
soit
noire.
Ah oui, il faut vraiment que la peau soit noire. Et après, il faut la cuire quand même, hein, parce qu'elle a beaucoup d'amidon. Alors que notre banane verte...
Mais on la cuit juste, excusez-moi, il y a deux écoles. Avec la peau ou sans la peau, en tout cas dans l'eau bouillante.
Ah oui, moi c'est avec la peau, c'est obligatoire.
Et
c'est
vous la plongez dans l'eau bouillante?
Exactement, dans l'eau bouillante ou à la vapeur. On coupe les deux bouts quand même, hein,
oui,
pour que l'eau puisse pénétrer. Et puis on la cuit une demi-heure maximum. Après, ça dépend de la grandeur de la banane. Maximum une demi-heure. On la laisse rafraîchir une nuit. Et après, on l'utilise comme les pommes de terre. Toutes les recettes de pommes
on
de terre.
On peut même vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
Exactement. On plante comme ça.
Là, vous avez, non pas un régime, mais en tout cas un bouquet de bananes vertes.
Voilà, là, on a un bouquet de bananes vertes. On a ce qu'on appelle une main,
oui,
donc qui peut être à 3, 4, 5. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on reconnaît les bananes françaises avec cette étiquette qui est autour.
Oui, parce que des auditeurs nous demandent la banane française durable, etc. Elle est entourée d'un bandeau.
Elle est entourée d'un bandeau
rouge.
Et vous regardez, il y a le numéro. Comme ça, vous savez qu'il y a 5 fruits dedans. Mmh. Alors le bandeau, pourquoi? Déjà pour qu'on le reconnaisse, et en plus pour éviter que les gens arrachent les bananes.
Mmh. Ah bien, voilà. Donc là, on achète la main.
Exactement.
Avec 5 doigts. On est d'accord. Petite recette avec une banane verte, allons-y.
Alors, je t'ai entendu parler hier sur les bulots de Granville.
Oui, ah. C'était ma chronique chez Patricia Martin et Eric Delvaux hier soir.
Ça m'a envoûté parce que j'ai fait une recette de banane verte au bulot. Donc voilà, en persillade,
Comment on s'y prend, génial.
Eh ben, on cuit la banane telle qu'on vient de la décrire, et ensuite on la coupe en petites tranches et on fait une persillade avec de l'ail, des échalotes. On rajoute un peu de noisette si on veut, et puis du beurre. On fait bien revenir tout ça. On met nos bulots, nos petites bananes caramélisées dedans et puis tout va bien.
Magnifique. Et oui. Et les bulots sont déjà cuits évidemment.
Ah bien sûr.
Cuits dans un courbouillon.
Comme ils nous l'ont dit hier, tout va bien.
C'est ça, une demi-heure. Et puis ensuite on les laisse reposer dans l'eau de cuisson pendant à peu près une demi-heure. 20 minutes à eau bouillante et ensuite une demi-heure. Non, mais le bulot, j'adore.
C'est vraiment super.
Et alors qu'est-ce que ça donne cette poêlée, vous aimez ou pas, Déborah?
Alors là moi j'ai goûté des carbonara moi au banane.
On a fait la carbonara.
J'ai pas goûté encore les bulots, mais
on va pas spoiler la carbonara. S'il vous plaît,
mais la carbonara, c'est juste dingue.
Ouais, une sauce carbonara dans un instant avec Frédéric Jauneau à base de banane verte. Et ça marche, c'est bon paraît-il.
Je confirme, là je suis en train de finir mon plat, mais c'est génial, j'adore.
Pour l'instant, je vous propose de vous rafraîchir le gosier avec Dominique Hutin.
On va déguster.
Alors Jimmy, dans ce blender, il y a quoi?
Sur France Inter.
Il y a de la banane.
De la banane, du fruit de la passion.
Du fruit de la passion, du rhum vieux, je préfère. Derrière, après je vais mettre ma liqueur de rhum. Une bonne dose de liqueur de rhum aussi. Hein.
Dominique Hutin a décidé de nous enrhumer sur le plateau dont on va déguster. Oui.
J'adore le secret, une bonne dose. D'accord, oui, très bien. Écoutez, continuons à nous chauffer au soleil des Antilles, si vous voulez. On va pister un des produits compagnons, finalement, de la banane. C'est le rhum, vous l'avez deviné. Et puisque toutes les routes mènent au rhum, je vais vous emmener sur la route du rhum, forcément. Sauf que, voilà, Martinique, Guadeloupe, Martinique, fallait choisir et mon cœur balance entre les deux. D'autant plus que entre les deux se situe l'île de la Dominique. Aïe.
Et oui, bien sûr.
Voilà. Et non pas l'île de la Didier, cher Frédéric.
C'est bien vu.
Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, vous irez sur notre site, sur la page France Inter, on va déguster, puisqu'il y avait le résultat du concours général agricole avec l'AOC Rhum Martinique, justement. Et Nadia a mis en ligne tous les résultats ce matin. Voilà. Alors, pour vous proposer de tirer des bords, vous avez un rhum dans les verres qui sont devant vous. C'est la cuvée Greyhound. Elle est là, François-Régis.
Merci beaucoup.
C'est un rhum agricole qui est né sur Marie-Galante. Alors, rhum agricole, redire peut-être que c'est un 100% jus de canne à sucre. Contrairement à beaucoup, 90% même des rhums qui sont dispersés à travers le globe, qui sont eux issus de mélasse. La mélasse, c'est un produit dérivé du raffinage du sucre. C'est un peu moins noble, un peu moins glamour. Souvent accompagné avec un marketing qui colle aux dents. Donc voilà, voilà. Des produits qui sont assez lourds. Non, mais il faut le dire parce qu'ils sont en train d'envahir vraiment les rayons. Et là, on a plutôt un rhum qui est typé par la fraîcheur.
Ils sont fidèles au rhum agricole.
Voilà. Alors, il a quand même un caractère un tout petit peu particulier, ce rhum. Oui. Et je vais vous donner un indice pour vous le faire deviner. Et je voudrais profiter que nous ayons Déborah, notre libraire préférée, sur le plateau aujourd'hui, pour piocher un indice dans un livre.
Incroyable.
En l'occurrence, c'est un agenda de 1899, agenda de l'épicerie. Et on voit des publicités, on voit la une, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui peuplent les pages, où on voit des bateaux à voile.
Formidable.
Qui amènent dans les ports du Havre, dans les ports de Dieppe, des bananes, etc. Et donc cet agenda, il est contemporain des toutes premières bananes, vraiment les pionnières hein, pour le coup, qui sont arrivées en France. Et du coup, ce rhum dont je vous parle, celui qui est dans vos verres, la cuvée Greyhound, c'est un rhum de retour des îles qui lui aussi est arrivé doucement en bateau, à voile. Exactement la même chose.
Des Antilles françaises.
Des Antilles françaises.
Et jusqu'à quel port?
C'est une bonne question. Alors, c'est à Douarnenez. Non, c'est à Douarnenez.
Ah, en Bretagne.
Dans le oui, comme je suis normand, il faut que je laisse un peu de l'Est de temps en temps après le bulot de Granville. Il fallait détendre un petit peu. Donc, c'est Douarnenez. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est, là, quand je disais qu'il y avait un point commun entre bananes, c'était produit compagnon avec le rhum, les deux partagent le fait de devoir être transportés. Mmh. Et qui dit transport dit avion cargo, dit géant des mers, vous voyez, il y a avion aussi dans la même famille. Et tout ça pose des questions qui riment avec bilan carbone, évidemment, qui sont des considérations environnementales qui traversent la société, mais qui surtout ont besoin d'entendre des réponses par rapport à ces questionnements-là. Eh bien, c'est ce que fait TOWT, Transoceanic Wine Transport.
With the accent.
Oui, c'est mon fameux accent, on aime bien chérir les contours ici. Alors, qui est le nom de cette société, que je ne vais pas répéter, son nom ne l'indique pas, mais elle est française. C'est une toute jeune société française qui est à Douarnenez, donc dans le Finistère, et elle est spécialisée dans le transport à voile. Donc, des rhums, mais aussi, et ils sont là, des vins, par exemple, vous voyez que cette jolie collerette, ils sont facilement identifiables, des chocolats qui sont là, de la bière, que voici...
Vin transporté à la voile, c'est extraordinaire.
Exactement. Et tout ça fait l'objet d'un petit label. Vous en avez aussi, hop, le petit autocollant, le label Anemos, qui à chaque fois est nanti d'un numéro. Et grâce à une application, vous pouvez tracer exactement le parcours qu'a suivi le produit. Et c'est important, parce que la traçabilité, on le sait, c'est pas forcément une des vertus cardinales des produits qu'on retrouve sur les étals des primeurs, par exemple. Ça, c'est le premier objet de TOWT, cette jeune société de Douarnenez. Donner de la crédibilité à la transition énergétique et bien la valoriser. Et au passage, ça permet de comprendre un peu l'expression à voile et à valeur. Alors, pour faire transiter le rhum, par un, comment?
Non, et on passe.
Donc, faire transiter le rhum par des locomotions douces, économiques, respectueuses du carbone, parce que c'est ça qu'on essaie un peu de contrarier quand même derrière cette histoire-là, c'est donc le projet premier de notre jeune société. Sauf que, tout ça présente un autre intérêt, connu de très longue date de tous les amateurs de boissons, des boissons qui naviguent. Et là, je vais aller chercher dans la littérature, et je voudrais profiter que nous soyons en présence de Déborah, notre libraire préférée, non, je l'ai déjà dit. Pour citer, vous allez reconnaître peut-être, « Faire voyager ce vin selon une longue tradition qui veut qu'il n'atteigne vraiment la perfection qu'après avoir fait une traversée sur un voilier », c'est Henri de Montfred, grand navigateur, dans « Pilleur d'épaves » en 1955. Donc on sait tout le bienfait qu'apportent ces trajets doux, lents, chaloupés, bousculés sur les mers pour les boissons. Et donc notre rhum a traversé pendant 6 mois.
Ah, c'est 6 mois quand même le voyage.
Oui, parce qu'il est reparti après. C'est donc beaucoup moins, c'est 60 jours d'ordinaire, mais là, il a subi. C'est un single cast, donc c'est une barrique qui a été isolée. Et j'ai essayé de vous le dire de manière un peu condensée, mais c'est une barrique qui a été isolée, qui est repartie après. Et du coup, elle a subi 4 transformations, ou plutôt en 4 dimensions. La première, vous l'avez entendu, c'est physique, c'est ce mouvement perpétuel que connaissent bien les marins, le roulis, la gîte, l'assiette, etc. C'est aussi la température, avec les changements climatiques. C'est aussi l'atmosphère saline, qui n'est pas anodine. Et puis, plus qu'on traverse le globe, eh bien, tout ce périple est traversé par des champs d'énergie. Et voilà, quand on fait la somme de tout ça, ça va influer.
Parce que notre rhum, Dominique, est encore en barrique, il n'est pas en bouteille dans son voilier.
Voilà. Et c'est tout ce rapport intime au fût, toute cette transformation qui va se créer à l'intérieur du fût. Et voilà, tout ça va transcender l'alcool. Et puis, pour en être vraiment sûr, on a laissé une partie du rhum, et ça finit de répondre à votre question, en bouteille, qui servent de témoin, et on voit qu'effectivement, il y a une vraie grande transformation. Voilà.
Très bien. Toutes les infos enrhumées de Dominique Hutin à retrouver sur franceinter.fr à la page « On va déguster ». Et si on mettait le cap sur la Martinique ?
Ouais, yeah, yeah. Ouais, yeah, bah. danser. Wooden promises. Well, au moins l'homme est glorieux.
In the name of God.
Well, au moins musique, c'est le bon Dieu.
Wrong fire, sound and tears.
Well, au cas de ces chaînes-là.
Don't forget tonight, I'm free ourselves.
Pour nous cacher du fait.
Don't forget tonight, I'm free ourselves.
Pour y vider et gwené ko, gwené ko.
L'artiste martiniquais de Marseille, David Walters, avec Sun Cutie, Bouée de l'eau. On a tous la banane avec Frédéric Jauneau, expert en fruits et légumes et meilleur ouvrier de France Primeur.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
On a plein de questions qui se bousculent de nos auditeurs sur notre mail, mais également sur Twitter. Quelqu'un nous demande, c'est Caroline à Paris, comment la banane est acheminée en métropole depuis les Antilles, parce que effectivement, Dominique parlait du bateau à voile, mais ça m'étonnerait qu'il soit utilisé.
Alors, vu les quantités, ça vient des deux ports, hein, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre.
Oui.
Ça traverse l'Atlantique sur 9-10 jours.
D'accord.
Et ça arrive au port de Dunkerque. Ensuite, c'est acheminé à travers la France entière, mais ça va être principalement dans des mûrisseries.
Oui,
d'accord.
Alors il y a justement, transition toute faite, d'autres interrogations. On soupçonne souvent ces mûrisseries d'utiliser des gaz, des produits chimiques pour faire mûrir les régimes de bananes. Qu'en est-il exactement ?
Non. Alors la banane est conservée pendant son transport environ dans les 13 degrés, 4, etc. Ensuite, ça va arriver et pour la faire mûrir, on va les mettre dans des chambres, dans des mûrisseries. On va pousser la température, on va augmenter la température jusqu'à 18-20 degrés et on va injecter un gaz qui est de l'azote avec de l'éthylène, et on va pulvériser un petit peu. Mais c'est très peu. C'est pour faire décoller. C'est quoi l'éthylène ?
Il y a une toxicité ?
L'éthylène, c'est le gaz naturel de la banane. Comme on le trouve dans la pomme, ça va faire mûrir le fruit.
D'accord.
Donc on va forcer son mûrissement, puisqu'on l'avait un petit peu bloqué. Et ensuite, on va aérer cette banane pendant quelques 4-5 jours.
Oui.
Et puis, on va l'envoyer dans les distributeurs ou dans les magasins.
Et elle se retrouve,
à 14 degrés. Ne la mettez jamais au frigo. Jamais.
Aviez une question, Déborah, à ce sujet.
Moi, j'avais effectivement plutôt les questions inverses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour les conserver à la maison sans qu'elles ne mûrissent trop vite ? Parce qu'au frigo, ça noircit, et si on les garde à l'air libre, souvent ça mûrit trop vite. Moi, j'ai envie de dire, mais mangez-les, vos bananes.
Mais Déborah, la banane française, ça se conserve pas, ça se mange, ça sème, ça se déguste.
C'est étonnant ce que je viens de goûter.
La carbonara.
Non, mais c'est dingue.
Sauce banane.
J'avais
en
prévenu.
Plus, moi, la carbonara, c'est mon truc. Je déteste quand cette sauce romaine, cette préparation romaine est...
Je sais, j'ai souvent entendu des émissions avec les Italiens.
Et
quand tu m'as demandé la carbonara, j'ai dit, mon Dieu!
Malheureusement, j'ai toujours dit comme slogan que dans la carbonara, la crème était un crime. Là, vous en mettez avec de la banane en plus, vous aggravez votre cas.
Non, mais c'est de la crème de banane.
Il n'y a pas de crème fraîche.
C'est un jus de banane.
Incroyable.
Qui est émulsionné avec de la banane cuite, et je le passe au mixeur, et ça se dilue, et ça fait une crème de banane. Dans lequel je mets effectivement les lardons.
Alors attendez, on récapitule.
Ce qui apporte l'onctuosité, c'est la banane qui est mixée.
Exactement.
Alors après, comment vous faites ?
Après, je peux rajouter de la crème si on veut que ça soit crémeux, parce qu'il y a des gens, il y a des amateurs. Mais normalement,
ça
moi, dans ma recette,
bien.
J'en mets pas. Je mets de l'eau et la banane et je le mixe jusqu'à temps d'avoir cette onctuosité.
C'est dingue.
Et c'est l'eau
des petits
qui
lardons.
Fait. Et les petits lardons, bien sûr. Hein, on fait.
Qui ne sont pas indispensables d'ailleurs si on est végane.
Exactement. Une petite échalote suée avec des petits lardons et je mets mon jus dedans et sur les pâtes et on y va.
Ou si on a des interdits religieux
d'ailleurs. Si vous commencez à vous attaquer au lobby de la crème fraîche normande, vous allez avoir des problèmes.
Bon, elle est sidérante cette recette.
Ah mais moi j'adore.
Alors Déborah, vous aimez ?
Ah mais complètement, et je trouve que ça se marie très très bien la banane avec le côté salé du lardon, avec le côté un peu fumé.
Elle est en train de manger mon plat du jour.
Et étonnamment, la banane apporte de la fraîcheur en virgule finale.
C'est
ça, c'est pas ce qu'on attend de la banane
mais
en général.
On n'utilise jamais cette banane en salé. Et c'est mon rôle aussi.
Et n'est-ce pas une très bonne façon de faire manger des fruits et des fruits
aux enfants. On l'a fait pour une école à Dunkerque, puisqu'on a fêté à Dunkerque, c'est le port, hein, c'est énormément de travailleurs qui viennent et qui travaillent pour cette fédération.
PORT, hein.
Exactement. Et je voudrais juste remercier monsieur Éric Delucy, qui est le président du JTP BAN, et toute l'équipe, hein, qui travaille derrière, hein, le directeur Philippe Ruel et tout, parce qu'ils font un travail remarquable pour faire connaître le travail. Il faut savoir que c'est le premier employeur des Antilles.
Et pour orienter la banane vers la transition écologique, c'est très important. On y vient justement produire des bananes bio sous un climat tropical. On sait que c'est une gageure. Eh bien, c'est le défi que relève un homme, Michel Blondel-Larougerie. Il est producteur de bananes à la tête d'une plantation familiale au Mans de Capot, c'est au Lorrain, au nord de la Martinique. Il est le seul, ou le premier, pour l'instant le seul producteur bio de bananes. Notre reporter Stéphane Combe est allé lui rendre une petite visite.
C'est quand même impressionnant parce qu'on voit des bananiers à perte de vue. Hein.
Ouais. On a à peu près 1800 pieds de bananes à l'hectare. 37 hectares de bananes bio. En fond de son pied, là. Regarde ça. Regarde ça, un terrain qui n'a jamais été travaillé, jamais laboué, ça n'existe plus. C'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une vie complète à l'intérieur qui va vous minéraliser les herbes, les feuilles, les branches, etc. qui va vous le transformer pour donner à manger à une plante. C'est extraordinaire. C'est là que vous voyez que le sol commence à être complètement meuble, c'est parce qu'il est gorgé de micro-organismes.
Moi, je vois beaucoup d'herbes au pied des bananiers. Ça, c'est voulu.
Eh bien, on est obligé, puisqu'on n'utilise aucun pesticide, donc aucun désherbant. Les déchets végétaux doivent rester sur place. C'est ça qui va nourrir le sol, c'est ça qui va nous faire de l'humus. Et c'est dans la forêt, dans notre forêt ici.
Oui, elle n'est pas loin, hein, on la voit d'ici, c'est de la forêt tropicale humide.
Exact. Et nous récupérons les micro-organismes, hein, qui sont sur les feuilles, qui sont sur les branches mortes. Hein, et nous avons une mixture que nous faisons sur place pour multiplier ces micro-organismes. Hein. Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est de l'eau, c'est de la mélasse, du sucre pour les multiplier, c'est du lait de vache frais, et c'est tout. Hein. Et ça se multiplie tout seul. Hein. Donc c'est très facile à faire. Ça fait déjà 14 ans que nous n'utilisons plus de pesticides chez nous. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous n'avons plus aucun charançon qui attaque nos bananiers.
En fait, Michel Larougerie, c'est cette espèce de mixture qui vous permet donc de combattre tous ces insectes qui attaquent les bananiers ?
Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà vu une forêt malade ? Aucune forêt est malade. Dès qu'il y a une maladie, tous les micro-organismes vont se mettre au travail, hein, et soit vont détruire cet arbre ou détruire cette chose qui a poussé ou cette chose qui est malade, et c'est terminé. On remet la vie que nous avons dans la forêt dans nos sols. C'est tout.
Alors là, il y a un régime de bananes.
Touchez cette feuille, vous allez voir comment...
Ça, c'est la feuille d'un bananier
bio. Et touchez-le comment il est épais. Ça n'a rien à voir avec la feuille du conventionnel. Elle est beaucoup plus résistante.
C'est vrai qu'elle est épaisse. Hein.
Oui, elle est très épaisse.
Michel Larougerie, vous êtes la preuve qu'on peut faire de la production bio dans la banane. Comment se fait-il que d'autres producteurs ne le fassent pas ?
Parce que c'est très compliqué. Pendant 14 ans, on a travaillé dessus. Pendant 14 ans, j'ai eu des galères parce que je ne connaissais pas. Donc les planteurs ont entendu parler des problèmes financiers que j'avais. Aujourd'hui, on a avancé. Aujourd'hui, on peut faire 1200 tonnes de bananes bio. Et je pense que l'année 2020, hein, nous pourrons arriver aux 1400 tonnes à l'aise.
En voilà un homme qui donne du baume au cœur. Il s'est converti à l'agriculture biologique il y a 15 ans, Michel Blondel-Larougerie, et qui s'inspire, comme on l'a entendu, de l'agroforesterie, tout simplement pour reproduire un écosystème dans lequel la banane se sent à l'aise. Plus de charançons parce que les hommes, les arbres surtout, se défendent eux-mêmes.
Exactement. Et il est vraiment formidable. Et ça fait plus de 200 espèces d'insectes qui reviennent, d'oiseaux. Ça fait 300 espèces de plantes.
Et qui participent à l'écosystème.
Qui participent à l'écosystème. Donc, il y a une augmentation. Vous savez, cette petite grenouille, là, l'ilode qu'on voit, elle est passée de 75 à 788 individus. Ah, voilà. Donc, vous voyez, c'est un travail de cœur.
Et sûr que Michel Blondel-Larougerie, qui expérimente toutes ces pratiques, va faire des émules, évidemment, aux Antilles, non seulement en Martinique où il est, mais également chez la voisine, la Guadeloupe. La bonne nouvelle, c'est que Michel Rougerie va même encore plus loin. Il se tourne vers la biodynamie. Sa production sera certifiée, figurez-vous, en 2020, Déméter. Naturalia propose depuis 2018 cette banane dans 12 magasins de l'Île-de-France et bientôt dans toute la France. Donc, je l'ai ici, cette petite banane. Bio. Elle a un gabarit assez modeste et je peux vous assurer qu'elle est concentrée en sucre. Elle est très bonne et elle est
en vente dans une douzaine de magasins Naturalia. Voilà, ça c'est des initiatives et des projets comme on les aime.
Le bio, faut dire simplement aux gens, aux auditeurs, c'est très important. Attention, il y a autant de bio qu'il y a de pays. Parce que c'est des cahiers des charges différents. Il y a une seule banane bio en Europe, qui est un des meilleurs cahiers des charges, c'est la banane des Canaries, la petite banane.
Absolument.
Mais elle ne s'exporte
européenne.
Pas. Et il faut savoir que pourquoi elle est bio, elle n'a pas ce climat tropical non plus. D'accord? Donc sinon, il n'existe pas. Donc faites attention, quand vous allez chercher, que c'est marqué une banane bio. Moi, je connais les bananes bio, qui sont vendues dans le commerce, qui ont des pesticides, 18 et 4 interdits en Europe. Et pourquoi?
Vous faites allusion à...
Ah non, je fais allusion à rien du tout.
La banane bio d'Équateur, malheureusement, on peut pas trop s'étaler sur le sujet parce qu'on a encore plein de choses à évoquer, mais vous avez raison.
Il faut le voir.
Concentrons-nous sur la banane française et les efforts qu'elle fait pour se tourner vers l'éco-responsabilité. On donne la parole à Déborah Dupont.
On va déguster. Sur France Inter.
Déborah Dupont, très sportive aujourd'hui, avec une recette justement pour ceux qui s'apprêtent à aller faire leur petit jogging juste après l'émission, on va déguster, histoire de maigrir.
Et puis pour ceux qui effectivement ont eu des bananes qui donc ont été trop mûres.
Oui, mais alors effectivement on insiste, les auditeurs posent la question,
oui. Exactement. En fait, on ne peut pas empêcher les bananes de mûrir, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont à l'air libre, elles vont suivre leur processus. Donc les mettre au frigo, effectivement, ça les fait noircir.
Quelqu'un vous demandait comment ralentir le processus de mûrissement.
Non, à partir du moment où elles sont passées dans les mûrisseries, elles sont ce qu'on appelle décollées, donc elles vont mûrir.
D'accord. Donc on les utilise dans des recettes qui réclament justement des bananes mûres.
Et qui réclament des bananes mûres parce que ça permet d'éviter de rajouter du sucre.
Mm-hmm.
Et donc là, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle L'assiette du runner, qui vient de sortir chez Hachette Cuisine.
Mm-hmm.
Donc à l'heure où on rechausse tous, bien évidemment, nos baskets pour aller courir le dimanche matin avant l'émission. Voici une recette donc qui est parfaite à la fois pour les périodes d'entraînement, de repos ou avant et après la compétition. En fait, pourquoi est-ce qu'on dit que la banane c'est le fruit du sportif? Parce que la banane se digère bien, surtout quand elle est très mûre. Quand elle est encore verte, il y a beaucoup d'amidon, donc c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'elle devient mûre, c'est quasiment du sucre rapide. Et là, c'est la recette.
C'est assez énergétique.
C'est assez énergétique. Et là, c'est quand même la recette la plus facile de l'émission. Je crois qu'en 4 ans de chronique, je n'ai jamais fait une recette aussi simple. Vous mettez dans le bol d'un mixeur ou d'un blender 3 bananes mûres, 100 g de farine, 2 œufs, 1 cuillère à soupe de purée d'amande, 50 g de yaourt grec, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café de bicarbonate. Vous mixez et ensuite vous faites cuire les pancakes.
Pancakes, très bien.
Voilà, c'est quand même la recette la plus simple. Donc les bananes ne sont pas, comme on a l'habitude de voir, sur la crêpe, coupées en rondelles. Là, c'est vraiment dans la pâte. Et il n'y a donc pas de sucre ajouté, pas de saccharose.
C'est incroyable. Et il y a ce délicat goût de banane, ce moelleux absolument incroyable, qui rend presque le pancake assez fondant. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah ouais, c'est très bon.
Vous avez de la concurrence, Frédéric Jonot, là?
Ah ouais, mais je vois, mais c'est bien. Plus on est de fou, plus il y a de bananes.
Oui.
Et le pancake, qui, à mon avis, se marierait très bien avec l'autre recette que Frédéric nous a préparée, et j'avoue, moi, je l'ai déjà terminée, le ceviche.
Oui.
Fabuleux.
Non, mais incroyable. Ceviche, racontez-nous.
La recette culte de la banane française.
Ouais.
En fait, je voulais faire goûter aux enfants une banane sucrée différemment. Donc là, c'est simple. Un petit peu de jus de fruit de la passion.
Mm-hmm.
Un petit peu de jus d'orange. Les zestes qui vont. Du lime. Pas du citron vert.
Oui,
du lime.
C'est vrai qu'on ne dit pas citron vert.
Exactement.
C'est pas un citron.
Tout à fait.
C'est du lime.
Un peu de gingembre si on aime bien, ou un piment végétarien.
Mm-hmm.
Ce piment qui n'est pas pimenté, mais qui a du goût.
Qui a l'arôme, mais pas la force.
Exactement. Et puis, on met même pas de sel. On met rien du tout. Et de l'oignon rouge.
Une petite
gousse d'ail. Et on laisse mariner tout ça. Une fois que c'est bien mariné pendant à peu près un quart d'heure, on met nos bananes dedans et on va remuer doucement les bananes. Pourquoi? Parce que les rondelles de bananes, en les remuant, ça va s'enlever un petit peu. Il y a de la pulpe qui va tomber dans le jus et ça va épaissir, d'où cette liqueur que l'on voit. Et puis voilà, après on mange. Mais ne la remettez pas au frigo, vous la mangez comme
à
ça.
À température ambiante.
C'est assez génial.
Ceviche. Et alors on peut rajouter... des fameux bulots dedans.
Oui.
On peut rajouter des crevettes, du poulpe, on peut rajouter plein de fruits de mer et de coquillages dedans, et ça se marie très bien.
Mais là, c'est surtout nos amis qui ne mangent pas de protéines animales derrière leur poste de radio qui sont plutôt contents avec les recettes que vous nous proposez.
Eh ben, on est là, on est tout à fait là.
Voilà, comme quoi le banane peut être un fruit tout à fait adapté et complet de l'entrée jusqu'au dessert. C'est absolument prodigieux. On retourne en Guadeloupe, petite couleur locale pour vous montrer à quel point la banane est dans les us et coutumes culinaires de Guadeloupe. La banane verte passe à la casserole. Ouais, verte, là c'est pas compliqué, on la trouve aussi sur nos étals. Il suffit de la prendre vraiment très verte, c'est de la Cavendish qui est verte en fait.
Tout à fait.
Ou une autre variété.
Non, c'est la
Cavendish. Nancy Bureau, la directrice, votre nouvelle amie de la Maison de la Banane à Trois-Rivières, sur Basse-Terre, en Guadeloupe. Elle nous prépare une recette bien connue dans les familles antillaises.
Je vais allumer le feu, je vais préparer une salade de banane. La salade de la banane, je vais la faire avec la morue locale. Comme on dit aux Antilles, poyo et morue. Donc je vais mettre de la morue dans l'eau, à bouillir un moment. Ensuite, je vais jeter l'eau, comme c'est trop salé, je vais remettre encore de l'eau. Et une fois que ça va commencer à bouillir, je vais déposer les bananes. Verte, la Cavendish verte, je vais la poser dedans.
Ah ouais, là, vous mettez des bananes entières.
Les bananes entières, je les ai. Alors, elles ne sont pas mûres, hein. Elles sont toutes vertes. J'ai simplement enlevé la peau. Parce que la banane verte, aux Antilles, on la cuisine aussi comme un légume. Donc voilà, je vais laisser cuire ça pendant 15-20 minutes. Et entre-temps, j'ai récupéré dans le jardin tout à l'heure du persil, du piment. J'ai pris une grosse échalote et je vais le couper en petits morceaux aussi, pareil. Ça sent fort le piment, donc ça met en appétit.
Donc au fond du plat, vous faites un tapis d'ail,
voilà,
de persil,
on mélange
de piment.
Toutes les épices, voilà, toutes les épices. Donc j'enlève toutes les bananes, elles ont refroidi. La morue, je vais enlever la grosse croûte. C'est ce qu'on appelle chez nous la chiquetaille de morue. Je vais la dépiauter en fait. Hein. Donc voilà, je l'ai bien dépiautée et je la dépose dans la salade. Maintenant, je prends mes bananes, je peux récupérer un couteau. Et tout naturellement, je vais les couper en petits dés.
Donc là, Nancy, vous êtes en train de mélanger là.
Voilà.
Les morceaux de banane, les petits carrés de banane avec la morue.
La morue. Tout ce que j'ai mis, voilà, tout ce que j'avais mis au préalable, les olives, etc. Le petit piment. Je vais parsemer, je vais me faire un petit peu de poivre encore. J'aime bien le petit bruit du moulin là. Je vais rajouter un petit jus de citron dans tout ça.
Un petit peu de citron vert.
Voilà, un petit peu de citron vert. Donc là, voilà, c'est terminé. On va y goûter tout de suite. On va la goûter. Hein. Je vais mettre des petites assiettes. Selon moi, ça constitue un plat. Hein.
C'est bon.
La banane, elle reste neutre à la limite. Hein. Elle s'est imprégnée du goût de la morue. On est bien d'accord. Zéro gluten. On a mangé sainement. On a mangé du frais.
Poyo, morue, j'ai déjà goûté ça aux Antilles françaises, j'ai eu de la chance, c'est absolument délicieux, c'est vraiment une cuisine, une recette ménagère qu'on trouve un peu partout, surtout en Guadeloupe. Poyo, on rappelle que c'est vraiment le nom pour désigner la banane verte en Guadeloupe.
Alors attention, tu le prononces mal et moi aussi, hein. Poyo, il faut avoir ça. Et en Martinique, attention, c'est tinène.
C'est ça.
Mais c'est cette banane verte exactement.
Question d'auditeur, Déborah.
Question d'auditeur qui sont toujours dans le durable et dans la récup. Qu'est-ce qu'on fait avec la peau de la banane?
Bonne question. On glisse dessus.
Alors, on glisse dessus. Alors ça, c'est une expression qui
on la glisse sous les pieds de la personne qu'on aime pas trop.
On se nettoie les chaussures. C'est un excellent cirage.
Non mais vous plaisantez.
Non,
là.
Je plaisante pas. D'ailleurs, il y en a qui se sont inspirés. Regardez, banane.
Ah, pas mal.
On a bien fait de venir.
Et on peut aussi, vous avez des rosiers à la maison, vous mettez, alors vous éloignez des racines et vous allez l'enfouir, mais pas trop près des racines parce que ça peut tuer, mais c'est un excellent engrais également.
Très bien. Ah, voilà. Ça oui, c'est vrai qu'on peut le mettre au pied de ses rosiers ou de ses plantes dans le jardin et ça forme un très bel humus assez riche. Un produit coup de cœur.
Moi j'en ai ramené chez la farine de banane. Alors oui. Il y a la confiture de banane et on a la farine de banane qu'on peut diluer comme ça dans le lait et puis se faire un genre de blédine, vous voyez, un genre de racine, et vous pouvez faire vos crêpes aussi avec ça, etc. Et puis pour notre ami Didier Dominique, je vais ramener un vin. Alors c'est pas du vin mais c'est c'est fait vinification de banane.
C'est vinifié, donc c'est un vin, mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme qui est réservé aux armes.
Mais voilà, pour me faire pardonner.
On s'est compris quand même.
Rappelons que cette farine de banane verte, en effet, c'est la dernière née des farines sans gluten. Elle est fabriquée à partir de bananes récoltées en Équateur qui sont certifiées agriculture biologique. Elle est très digeste, riche en potassium, c'est un coupe-faim naturel. Et il y a un pouvoir liant et épaississant assez fabuleux qui donne beaucoup d'onctuosité, notamment sur votre cake à la banane, par exemple. Je pense que ça pourrait s'adapter. Simplement, il faut en mettre 25% en moins qu'une farine traditionnelle de froment. Vous connaissiez ou pas, Déborah ?
Je ne connaissais pas du tout et je découvre aussi que ça s'utilise à froid sans cuisson et que ça peut épaissir des smoothies, des choses comme ça.
C'est ça. On nous dit aussi, les auditeurs nous disent, ça réagit pas mal sur les réseaux sociaux, qu'on peut faire de la confiture de banane, évidemment.
La confiture, forcément, mais vous pouvez faire des chips aussi de banane, voilà, quand elles sont vertes, vous les faites sécher, alors soit en friture ou soit au déshydrateur.
C'est ça.
Vous avez pas besoin, vous pouvez faire des frites de banane.
Absolument, on peut faire plein de choses.
Gratin dauphinois à la banane.
Vous reviendrez nous voir, ça c'est sûr, Frédéric Jeuneau. Merci beaucoup. Un grand merci, Frédéric, d'être venu avec votre bonne humeur et vos super recettes. On retiendra vraiment celle de la carbonara, qui est en ligne sur France Inter.fr, comme toutes les autres recettes. Tous les reportages de Stéphane Combe sont également réécoutables sur notre site grâce à Anne Audigier, qu'on remercie chaleureusement. Elle appartient au service web Gardez la banane, amis auditeurs. Demain, dimanche à 11h, une émission à l'accent méditerranéen, la leçon de Cucina Italiana de Laura Zavan et un petit détour très salivant par Barcelone. À demain, si vous avez encore faim.